Amen, bonjour à tous. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion, je vous l'avais déjà dit, de pouvoir aller en Israël début janvier avec une quarantaine de pasteurs. Et j'ai eu la grâce de pouvoir marcher sur les pas de Jésus, dans les endroits où Jésus a été, dans les endroits où Jésus a exercé son ministère. J'ai pu voir la Galilée, où Jésus a exercé l'essentiel de son ministère avec le mont des Béatitudes, là où il a donné son sermon sur la montagne. J'ai pu voir la maison de Pierre où Jésus a guéri la belle-mère. J'ai pu voir aussi la synagogue de Capernaum où Jésus a prêché bien souvent. Et puis après, on est descendu un peu plus bas sur Jérusalem et on a vu les endroits possibles de la crucifixion et de la mise au tombeau de Jésus. Mais il y a un endroit qui m'a le plus frappé et je vous en avais parlé un petit peu. C'est sans aucun doute un jardin. Le jardin de Gethsémané. C'est quelque chose qui m'a frappé parce que c'est à cet endroit que Jésus a livré l'une de ses plus grandes batailles face à lui-même, mais dont l'issue a été déterminante pour l'humanité entière. Et c'est sur cet épisode ce matin que j'ai envie qu'on s'attarde ensemble. C'est vraiment Dieu a travaillé mon cœur pour partager quelque chose à propos de ce qui s'est passé à Gethsémané. Et je crois que comme lui, il peut nous arriver parfois dans la vie d'être saisi par l'angoisse de situations qui nous dépassent. Et ces situations ont parfois la faculté de nous déstabiliser à tel point peut-être que des fois on a l'impression qu'on touche plus terre, qu'on est complètement enterré, enfoncé. On peut parfois dans nos vies traverser des moments de pression tels qu'on voudrait peut-être tout lâcher et tout abandonner. Et vous savez, si Jésus, et on va le voir, a été assailli comme jamais dans le jardin de Gethsémané, il est sorti victorieux de cette bataille. Et nous pouvons l'être également des nôtres, grâce à ce que Jésus a accompli. Au travers de ce récit, ce matin, on va voir comment aborder, comment traverser et comment sortir des moments de pression qui peuvent être là sur nos vies. Ces moments, vous savez, si intenses parfois qu'on est complètement accablé. Voir comment on peut sortir de ça, comment sortir de ces expériences de vie que nous traversons tous. Et le titre que j'ai donné à ce message ce matin, c'est « Sous pression ». Lorsque je suis sous la pression. Le premier point ce matin que je veux soulever avec vous avant qu'on commence la lecture, c'est que Jésus a expérimenté la colère et l'abandon pour que tu vives la paix et la réconciliation. Et on l'a entendu ce matin, Dieu veut se révéler comme le Dieu de paix. Il veut qu'on puisse saisir ça. Mais pour que nous puissions être au bénéfice de cette paix, Jésus a dû subir la colère et l'abandon. On commence la lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 14, des versets 32 à 34. On nous dit « Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à en mourir. » Restez ici, éveillés. Nous sommes quelques heures après le repas de la Pâque que Jésus a passé avec ses disciples quelques temps après. Et au cours de ce repas, Jésus explique à ses disciples, à ces derniers, que sa vie va être livrée, que son sang va être versé pour beaucoup. Et c'est dans ce contexte que le groupe de disciples et Jésus se rendent dans ce lieu, Gethsémané, au Mont des Oliviers. C'est un lieu où Jésus et ses disciples aimaient passer du temps parce qu'il est connu pour un lieu de calme et de tranquillité et favorable justement à la méditation. Et c'est intéressant parce que Gethsémané signifie littéralement le pressoir à huile. C'est intéressant de noter que c'est dans un lieu où on pressait les olives afin d'en tirer la précieuse huile d'olive que notre Seigneur a été mis sous pression dans son être intérieur, mais que le résultat qui en a débouché, c'est la plus grande décision pour chacune de nos vies. Autant l'huile d'olive est précieuse pour assaisonner nos plats, autant la pression qui a été subie sur Jésus est précieuse pour nos vies aujourd'hui. Parce que sans cette décision que Jésus a posée dans le jardin de Gethsémané, aucun d'entre nous ne serait assemblé ce matin. Aucun d'entre nous ne serait au bénéfice de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a accompli en donnant sa vie pour chacun d'entre nous. Jésus a accompli la chose la plus précieuse, celle d'aller mourir sur la croix pour porter le poids de nos fautes et de nos erreurs. Et on voit dans cette histoire que Jésus ressent le besoin de se tenir en présence de son Père, mais aussi de ses amis les plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Alors que c'est l'heure la plus sombre de son existence terrestre, il a le besoin de se tenir en connexion avec son Père et avec ses amis. Le texte nous dit que Jésus commence à être saisi de frayeur et d'angoisse. Et le terme grec qui est employé par frayeur, c'est ektambeo, qui signifie jeter dans la terreur, jeter dans la stupeur, être stupéfait ou encore être étonné. Et c'est sur cette mention que je veux m'attarder ce matin. C'est surprenant de voir Jésus être sidéré ou étonné d'une situation. Lui qui était toujours imperturbable et en contrôle de toutes les situations, quand on lit dans les évangiles, face aux malades, face aux lépreux, face à ce que les gens pouvaient dire de lui, il était toujours dans un contrôle de lui-même. Mais dans cet instant-là, il se passe quelque chose. On voit Jésus qui est face à une situation qui semble déstabilisée. Il n'est plus dans ses repères. L'autre terme nous parle d'angoisse, et le terme c'est adémonéo, qui est traduit par tourmenté, dépression, ou encore submergé d'horreur. Vous savez, il y a trois termes en grec qui existent pour parler de dépression. Et c'est celui-là le plus fort. C'est ce terme le plus intense, adémonéo. Et c'est ce que Jésus est en train de ressentir à cet instant. Il déclare que son âme est triste jusqu'à la mort. Vous savez, certaines personnes qui traversent des temps de dépression, d'abattement ou de tristesse intérieure, des fois peuvent se sentir tellement mal à l'intérieur que même le goût de vivre n'y est plus. Et on peut être vivant physiquement, mais mort à l'intérieur, quand on traverse des temps de dépression profonde. Et on peut comprendre ce que Jésus il est en train de traverser dans ce moment-là lorsqu'on voit comment Luc relate la même histoire dans son évangile. Et il dit que saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Le théologien John MacArthur explique que c'est la manifestation d'un état critique et connu sous le nom d'hématidrose ou sueur de sang. Et ça peut être provoqué lorsqu'on vit une angoisse intense ou qu'on fait un effort physique intense, quelque chose qui nous dépasse. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les capillaires sous-cutanés se dilatent et explosent et se mélangent avec la sueur. Et le sang et la sueur sont mêlés. Alors on peut se poser la question ce matin, mais c'est quoi cette expérience que Jésus a vécue, si étrange à ce moment-là, pour qu'il en arrive à ce point-là? En effet, quand on regarde d'autres personnes, d'autres croyants à sa suite, qui sont morts dans des circonstances atroces, comme les martyrs, on a l'impression qu'ils ont traversé ça de manière plus calme. Regardez Étienne, par exemple, dans les Actes des Apôtres. Mais regardons aussi dans le reste de l'histoire. On a plein de récits d'hommes et de femmes chrétiens qui, à cause de leur foi, ont été jetés aux lions, ils ont été coupés en morceaux, ils ont été brûlés vifs. Et pourtant, ils traversent la situation plus calmement. On a l'exemple de Polycarpe. Polycarpe, c'était un père de l'Église, évêque de l'Église de Smyrne, donc un des premiers responsables chrétiens dans l'histoire de l'Église. Et à la fin de sa vie, il a été traîné devant un magistrat qui lui annonçait qu'il serait brûlé vif, sauf s'il reniait sa foi en Jésus. Et là, il pourrait échapper à la mort. Et la réponse que Polycarpe a donnée, elle a été la suivante, et il dit à ce magistrat: « Tu me menaces d'un feu qui brûle une heure et s'éteint rapidement. » Et il lui dit: « Tu ne sais rien du feu du jugement à venir. Mais qu'attends-tu donc? Va et fais ce que tu veux. » C'est impressionnant quand même. Polycarpe rempli de force au moment où il dit ça, et on a Jésus qui est déstabilisé lui avant d'aller donner sa vie à la croix. Comment se fait-il que la mort pour Polycarpe ou les autres semble plus simple pour eux que pour Jésus, plus facile à affronter que la mort de Jésus à la croix? Tout simplement parce que Jésus a dû affronter ce que les martyrs n'ont pas eu à affronter. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le jardin, quelque chose que le Fils de Dieu a ressenti et qui l'a déstabilisé, quelque chose qui dépasse la mort physique, quelque chose qui dépasse la torture, quelque chose qui, comparativement à la mort, aux douleurs physiques, ferait passer la mort physique pour des piqûres de moustiques. Jésus, on sait, il savait qu'il allait mourir, il l'a annoncé à ses disciples. Il l'avait proclamé. Mais là, il était en train de commencer à goûter à quelque chose qu'il allait subir à la croix et qui dépassait la torture physique et la mort. Et on trouve l'élément de réponse dans sa prière juste après. On continue la lecture, Marc 14, 35 à 36. « Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus demande ici au Père d'éloigner la coupe. Et la Bible se sert du mot « coupe » comme d'une métaphore pour illustrer la colère de Dieu déversée sur le mal. Quand on parle de coupe, on parle de cette image de la justice divine qui vient frapper l'injustice. Et on retrouve ça dans Ézéchiel 23, au verset 32-34, qui nous parle de la coupe large et profonde, qui nous parle de la coupe de désolation, qui nous parle de la coupe de destruction. Ésaïe lui dira nous parlera de la coupe d'étourdissement, il nous parlera de la coupe de la colère de l'Éternel. Toutes les fois où Jésus se tournait vers le Père dans la prière, il était inondé de l'amour que l'Esprit de Dieu lui communiquait. Mais à cet instant, il y a quelque chose de différent. Le théologien Tim Keller écrira la chose suivante. Dans le jardin de Gethsémané, il se tourne vers le Père et tout ce qu'il voit devant lui est la colère, l'abîme, le gouffre, le néant de la coupe. Dieu est la source de l'amour, de la lumière, de la cohérence. Dès lors, être exclu de la présence de Dieu signifie être exclu de l'amour, de la lumière et de la cohérence. Jésus commence à expérimenter et ressentir la désintégration spirituelle et infinie qui aura lieu lorsqu'il sera séparé de son Père à la croix. Il commence à ressentir la solitude et ressentir l'abandon. Voilà pourquoi il demande à ses amis proches d'être à ses côtés. On voit Jésus qui est en train d'épancher son cœur devant et dit « Mais mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il a besoin d'être entouré par ses proches, il a besoin d'être entouré par ses amis. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je me sens mal, parfois, j'ai besoin de mes amis proches. J'ai besoin de passer du temps avec ceux que j'aime. Regardez ce qui passe quand on perd un être proche, tout le monde vient. Cette semaine, on a appris le départ d'un de nos frères, pasteur à Valenciennes, et Michel est monté là-bas pour être quelque part un peu de consolation pour une famille endeuillée. Et quand on perd quelqu'un, on a besoin des autres, juste pour alléger un petit peu le fardeau de la douleur, d'être soutenu, d'être entouré, d'être encadré. Voilà ce qui se passe. Dans le jardin, Jésus expérimente le vide de la relation coupée avec Dieu. Marc relate ce qui s'est passé dans le chapitre d'après, à l'heure de la croix. Et il dira la chose suivante, au moment de la croix, à midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, il n'y a plus de lumière, les ténèbres arrivent, jusqu'à 3h de l'après-midi. Et à 3h de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le terme « abandonné », c'est « eg katalape leipo », pardon, qui parle d'abandon, qui parle de désert. Jésus est en train d'expérimenter le désert de la solitude. On peut se dire, mais c'est quoi ce Dieu qui abandonne son enfant ? On peut se dire, mais c'est quoi ce Dieu qui manifeste sa colère ? Vous savez, on aime entendre parler d'un Dieu d'amour, on aime entendre parler d'un Dieu de paix, mais parler d'un Dieu de colère, ça on n'en veut pas. Pourtant, mes amis, la colère de Dieu démontre son amour. Vous savez, plus vous aimez quelqu'un, plus vous êtes susceptible de vous fâcher. Quand on voit des gens qu'on aime, qui se font du mal, qui se détruisent, ça nous met en colère à cause de notre amour à leur égard. Quand on voit des gens s'auto-détruire sans que cela nous fasse quelque chose, ça démontre juste que leur sort nous est indifférent. Quand on voit des gens qui se font du mal, on dit « ouais, c'est son problème ». On est en train de montrer juste qu'on ne les aime pas, qu'ils nous sont indifférents. Plus nous aimons les autres, plus nous allons être irrités par ce qui leur fait du mal. Vous savez, l'amour de Dieu dépasse le nôtre. Et l'accumulation du mal dans notre monde est telle que le mot colère est trop petit pour décrire ce que ressent Dieu lorsqu'il voit l'état du monde, lorsqu'il voit l'état de la société, et peut-être même lorsqu'il voit parfois l'état de nos cœurs. Toutes ces atrocités commises, l'égoïsme ambiant, où le bien est appelé mal et puis le mal il est appelé bien, où les gens ne s'occupent plus de ceux qui les entourent, on s'en fout des autres. L'individualité croissante, les horreurs qu'on peut commettre même au nom de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime qu'il est en colère contre le mal et que ça le pousse à agir. Un Dieu sans colère n'a pas besoin de quitter son ciel de gloire, devenir homme et mourir sur une croix et endurer l'agonie pour nous sauver. La question ce matin, c'est quel Dieu choisissons-nous ? Est-ce qu'on veut un Dieu sans colère qui n'agit pas ? Ou est-ce qu'on veut ce Dieu de la Bible qui, parce qu'il est en colère contre le mal, vient à la croix, prend sur lui le mal dont nous sommes à l'origine, porte sur lui nos tourments pour que nous puissions être en paix avec lui. La Bible nous dit que Jésus a littéralement été fait péché pour nous. Tout ce qui dégoûte le plus notre Père céleste s'est fixé sur Jésus. Le Père a détourné les regards de celui qui était la prunelle de ses yeux, ne pouvant plus supporter l'horreur et la présence du mal. Jésus a été abandonné et coupé de la source de l'amour. Mes amis, quand on voit ce que Jésus a supporté pendant ces quelques instants, j'imagine même pas c'est quoi l'horreur d'une éternité sans Dieu. Une éternité coupée, parce que c'est ça quand on parle d'enfer. C'est passer sa vie loin de la source de l'amour, de la joie et du bonheur. C'est être tourmenté, être seul, abandonné. Tout ce qu'on cherche à fuir quelque part dans nos vies. Parce qu'on est des êtres de relations créées pour avoir des relations. Et ce que l'homme, l'être humain déteste le plus, c'est justement d'être isolé et seul. Jésus l'a subi pour chacun d'entre nous. Et il l'a fait tout simplement parce que Dieu nous aime. Jésus a subi la solitude et l'abandon de la source de l'amour pour que jamais plus ça nous arrive. Pour que jamais plus nous vivions cela, ce que je peux entendre amen ce matin. Jésus, il a subi l'abandon pour jamais que ça t'arrive. Dans le jardin, Jésus pria le Père que cette douleur s'éloigne de lui pour qu'il puisse échapper à cette douleur, à échapper à cette horreur qui l'attendait. On voit qu'il aimerait éviter cette douleur atroce de cette coupe qui vient s'abattre. Pourtant, il prie, non pas ma volonté, mais la tienne. Il avait encore le choix à ce moment-là d'échapper à cela et finalement de nous abandonner à notre triste sort. Mais il a décidé d'aller au bout. Vous savez, ce qui nous permet d'être libres aujourd'hui, c'est jouer à cet endroit. C'est là que Jésus a décidé d'aller jusqu'au bout. Pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit que pour quiconque place sa confiance en Jésus, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Si quelqu'un est là ce matin en disant « je ne suis pas digne de recevoir cet amour », la parole te déclare qu'à cause de ce que Jésus a subi, rien ne peut te séparer de l'amour du Père. Nous pouvons tous être au bénéfice de l'amour et de la grâce de Jésus. Quelqu'un devrait dire « amen ». Il est fidèle. Jésus a comblé le gouffre, a comblé le vide par sa vie qu'il y avait entre nous et Dieu à cause du mal qui nous habite. Jésus l'a subi pour que jamais plus ça nous arrive. À la croix, il l'expérimente et il endure tout cela pour que jamais nous ayons à vivre l'horreur de la coupe. Dieu t'aime à ce point, mon ami. Dieu t'aime à ce point. C'est l'amour que tu as recherché toute ta vie. Et laissez-moi vous dire avec amour ce matin, mais aucun autre amour, que ce soit ta famille, une personne, tes amis, un conjoint, ne pourra te satisfaire comme cet amour-là. Tout autre amour te décevra un jour, mais pas celui de Christ parce que son amour est divin. Il est la source de l'amour. Il est la source de l'amour. Et ce qui est le plus frappant dans cet amour de Christ, c'est que malgré l'angoisse que Jésus est en train de traverser à la croix, Jésus pense encore au bien-être de ses disciples. Et c'est mon deuxième point ce matin. Prier te permet d'être fortifié. On continue la lecture, verset 37-38. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Jésus se dirige vers ses disciples qui sont endormis. Et Luc précise même dans son évangile qu'ils étaient endormis de tristesse. La tension, elle était aussi intense pour les disciples que pour Jésus dans ce moment de Gethsémané. Cependant, nous voyons les disciples qui ont capitulé face à eux-mêmes. Ils ont préféré se laisser aller au sommeil plutôt que de mener le combat de la prière et de recevoir les forces que Dieu voulait leur communiquer. Et Jésus va profiter de cet instant pour les enseigner, pour parler à leur cœur, pour leur enseigner une vérité profonde. Il les invite à veiller et prier pour ne pas se laisser entraîner par la tentation. Il souligne que leur état de cœur est bon, mais que par leur propre force, ils ne pourront résister face à la pression. Vous savez, il y a en nous un véritable désir de bien faire, je le crois. Souvent, on est animé de bonnes dispositions, mais on n'a pas les ressources en nous-mêmes pour pouvoir résister. On voit ça au 1er janvier. Généralement, on prend tous des bonnes résolutions. Cette année, j'ai décidé que... Mais si on essaye de le faire par nous-mêmes, dire « j'ai décidé, puis je vais m'y tenir », quelques jours vont passer, et puis on va relâcher, et puis on va abandonner. Pourquoi ? Parce qu'on est animé de bonnes dispositions, mais on n'a pas la force par nous-mêmes pour tenir nos résolutions. Si on remonte au repas du Seigneur, juste avant la venue dans le jardin, Jésus annonçait à ses disciples qu'ils allaient être ébranlés dans leur foi à cause de ce qui allait prendre place, sa capture. Et on voit Pierre qui lui dit, « Seigneur, si tous ceux-là sont ébranlés, pas moi. Moi, je serai là. Moi, je serai présent. » Jésus va alors simplement lui dire que par trois fois, il va le renier. Pierre va alors protester en affirmant, « Non, non, Seigneur, je te le dis, je suis prêt à mourir pour toi. » Plutôt que de te renier. On connaît la suite de l'histoire. Il ne s'est pas passé longtemps que Pierre a renié trois fois Jésus. Parce que Pierre a dormi et ne s'est pas armé de la présence de Dieu. Il va renier le maître comme c'était annoncé. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est qu'on voit un Pierre qui est sûr de lui-même, alors qu'on a Jésus, le Fils de Dieu, qui lui veut dépendre du Père. On a un Pierre sûr de lui, autosuffisant, et puis on a un Jésus vulnérable qui dit, mes amis, je suis triste jusqu'à la mort, je suis en train de galérer là. On a besoin de prier, de se tenir dans la présence de Dieu. Une leçon de vulnérabilité et de transparence que Jésus nous donne. Et il dit même, si seulement je pouvais éviter ça. Jésus ne place pas sa confiance en lui-même en disant, les gars, je suis le Fils de Dieu, vous inquiétez pas. Il pourrait le faire, parce que Jésus était Dieu. S'il voulait, il pouvait éviter cette coupe. Mais il a décidé d'aller jusqu'au bout. Il ne s'est pas confié en lui-même, mais il s'est volontairement laissé à la conduite du Père pour sa vie. Il s'est rendu dépendant du Saint-Esprit, de ce que l'Esprit lui communiquait du Père pour sa vie. Il place sa confiance dans le Père. Il cherche à dépendre des forces que le Père voudra bien lui accorder. Ne nous berçons pas d'illusions, mes amis, ce matin, sur nous-mêmes, en nous croyant invincibles. Si tu te crois invincible, tu es en danger, mon ami. La Bible nous dit que celui qui se croit debout, ne prenne garde de tomber. Ne nous berçons pas d'illusions en disant, mais moi, je suis quand même quelqu'un de costaud, par moi-même. Vous savez, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. La confiance que nous avons en nous-mêmes peut nous bercer et nous endormir spirituellement. Mais le réveil peut faire très mal. Pour ne pas tomber dans ce travers, Jésus leur enseigne de veiller et de prier. Le mot « veiller » grégoréo signifie en grec « porter une attention stricte et active ». Bien souvent, on demande dans nos prières « Seigneur, veille sur mon cœur, prépare mon cœur ». Le problème, c'est que cette mission-là nous incombe à nous. On voit dans Proverbes 4, 23, on nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources servaient à délimiter les frontières entre les pays. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est « Veille à ce que tu laisses entrer dans les limites, dans les frontières de ton cœur. » Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va en jaillir. Il y a toujours quelque chose qui va en sortir. Veille sur ce que tu laisses entrer, parce qu'il y a quelque chose, il y a un fruit qui va en sortir. Ce que tu laisses entrer en toi va t'influencer et va déterminer ce qui va découler de ta vie. Jésus invitait Pierre, Jacques et Jean à rester sur leur garde et à discerner la bataille spirituelle qui était en train de prendre place, qui était en train de se dérouler sous leurs yeux. Pour nous tenir ferme, il nous faut non seulement rester en alerte, mais il nous faut dépendre des forces de Dieu. Le combat que Jésus a vécu s'est déroulé en 3 actes de prière. Et ça, ça nous montre que certaines batailles de nos vies prennent du temps. Ça ne se règle pas en 2 coups de cuillère à peau. Il y a des batailles qui prennent du temps et on a besoin de se tenir au pied de Jésus et de dépendre de lui. Edward McKendrick Bounce, c'est quelqu'un qui a écrit des livres sur la prière juste phénoménaux. Il a écrit des livres de fous. Et il faut savoir que le gars-là, dans son histoire, il allait sur le champ de bataille. Et quand les gens étaient en train de mourir sous les balles, il courait sous les balles pour dire aux gens « Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. » Et il a écrit des livres, mais juste hallucinants, sur l'importance de la prière. Et il va dire la chose suivante à Gethsémané. Il a présenté sa requête à son père à 3 reprises, avec une instance constante, pressante, mais soumise. Il a prié si ardemment qu'il a versé des larmes et que sa sueur s'est mêlée de grumeaux de sang. Au cours de ses heures de prière insistantes, il a surmonté les pires crises de sa vie et remporté d'éclatantes victoires. Or, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mes amis, la prière, c'est nécessaire. Et quand je vous le dis à vous, je me le dis à moi. Ne soyons pas négligents avec la connexion avec le ciel. Vous savez, on ne prie pas pour faire plaisir à Dieu, on ne lit pas sa Bible pour faire plaisir à Dieu. Si on le fait en disant, voilà, Seigneur, t'es content, j'ai lu mes 3 chapitres, à demain, laissez votre Bible fermée, ça ne sert à rien. Et c'est de comprendre qu'on a besoin de cette connexion avec lui, qu'on a besoin de recevoir les ressources qui viennent de lui, qu'on a besoin de recevoir son influence. Vous savez, on est comme une éponge, je vous l'ai déjà dit, on se remplit du jus dans lequel on baigne. Et on a besoin de prendre conscience qu'on a besoin de ces temps personnels avec Dieu au quotidien pour être influencé par le ciel et que ça puisse se traduire dans notre vie au quotidien tous les jours. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Regardons ce que Paul enseigne sur la prière. Combien cette dernière a la capacité de nous garder éveillés. Elle a la capacité de protéger nos cœurs et de nous permettre à ce que nos pensées soit toujours aligné avec le ciel et d'être au bénéfice du coup de la protection de Dieu. Je vous lis Philippiens 4, 6 à 7, mais dans la version Parole Vivante. On nous dit « N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. » Grâce à l'œuvre de Christ, nous avons cette assurance de ne jamais vivre l'abandon du ciel, mais la présence de Jésus à nos côtés pour nous porter et nous aider à traverser les tempêtes. Jésus ne nous a jamais promis une vie sans tempête, mais il nous a promis sa présence au cœur de ce qu'on peut traverser, au cœur de ce qu'on peut vivre. Même au cœur de la nuit noire de Gethsémané, Jésus a trouvé en son Père, malgré le fait qu'il commence à toucher à ce que c'était la séparation, il trouve en son Père les forces pour aller jusqu'au bout de sa mission. Et c'est mon 3e point ce matin. Prier te permet de traverser et triompher de la pression. Marc 14, 41. Il revint pour la 3e fois et leur dit « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » J'ai invité l'équipe à s'approcher. Après ces 3 temps de prière intense, Jésus revient ses disciples sont toujours endormis. Mais lui, il a obtenu quelque chose dans le combat de la prière. Et c'est intéressant parce qu'il dit « c'est assez ». Le mot grec « apekei » signifie aussi « c'est suffisant ». Il y a un temps après la prière où nous avons reçu ce qu'il faut de la part du ciel pour affronter ce qui arrive et être armés pour le combat. J'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue en 2007. En 2007, tout jeune amoureux, bien à un mois du mariage, un mardi soir, je pars à la réunion de prière et puis je décide d'appeler ma femme en étant au volant de ma voiture. Et puis, elle ne décrochait pas. Ce n'est pas de sa faute, hein, c'est de ma faute. C'était moi qui ne devais pas téléphoner au volant. Je l'appelle et elle ne décroche pas. Et je baisse la tête et j'insiste pour la voir. Je lève la tête, je suis voie de gauche, il y a une voiture en face de moi, coup de volant, je finis dans le champ de maïs. Et là, je dis « Seigneur, j'espère que je ne les ai pas tués. » Et puis, c'était des Allemands, ils n'avaient rien. Et puis, comme j'étais policier, du coup, ça les a rassurés. J'aurais dit « Voilà, on va faire le constat, etc. » Puisqu'il y avait jusque du matériel, personne n'était mort. Donc, eux, ils avaient juste l'optique avant de casser. Moi, ma voiture, elle était cuite. Et là, je disais « Seigneur, je n'ai pas les moyens. » Ma voiture, elle était cotée 5 000 € à l'époque. Et je disais « Seigneur, je n'ai pas les moyens. On se marie dans 3 semaines et je ne peux pas racheter une voiture. » Et je dis « Seigneur, et j'étais vraiment mal à l'intérieur de moi. » Je dis « Mais comment on va faire ?» Et je me rappellerai toujours, j'étais en prière à la maison. Donc quelques jours se sont passés, puis il y a l'expert qui devait expertiser la voiture et les dégâts qu'il y avait dessus. Et j'étais terrorisé à l'intérieur de moi. Et j'étais en train de prier. Et je dis « Seigneur, et tout d'un coup, il y a eu comme une paix qui m'a dit « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de la situation. » C'est trop fort parce que c'est moi le fautif dans l'histoire. Et le Dieu du ciel prend encore soin de moi malgré mes erreurs et ma folie. Et il y a comme une paix qui descend dans mon cœur en disant « ça va bien se passer ». Quelques heures après, l'expert m'appelle et il dit « il y en a pour 4 700 € de réparation ». Dieu a pourvu. Je n'avais pas les moyens. Mais j'ai expérimenté cet avant-goût du ciel qui arrive lorsque parfois on est complètement comme torturé. J'avais juste 19 ans, j'étais tout jeune. Et cette situation me dépassait. Mais il s'est passé quelque chose dans la prière à un moment où j'avais la certitude, la paix surnaturelle de Dieu, que tout allait bien se passer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Dieu a été fidèle. Et ce qu'on voit dans cette histoire, c'est qu'à ce moment-là, Jésus a été prêt pour affronter la croix et finaliser le plan de sauvetage, de salut de l'humanité. L'angoisse et la terreur ont pris fin. E.M. Boone dira encore, quand un enfant de Dieu prie avec foi et insistance, il l'honore, même s'il tarde parfois à l'exaucer, afin de fortifier et d'enrichir sa foi. En son temps, il le récompense en le déchargeant pleinement et définitivement de son fardeau. Amen. On a un Dieu qui agit encore aujourd'hui, mes amis. Le secret de la délivrance se trouve à ses pieds dans sa présence. Et on peut commencer à jouer si vous voulez. Je crois ce matin que plusieurs peuvent passer par une saison de pression. Et ce n'est pas en t'éloignant de Dieu que tu vas expérimenter son secours. Mais c'est lorsque tu vas te tenir à ses pieds, sur tes genoux. Peut-être que quelqu'un ce matin se sent comme entouré par la noirceur et la mort. Va à la rencontre du Dieu de Gethsémané. Il est fidèle et juste pour te communiquer sa vie ce matin. Je crois qu'il veut te revitaliser. Je crois qu'il veut mettre fin ce matin à l'angoisse et à la pression que tu es peut-être en train de traverser. Je crois qu'il veut te faire expérimenter cette paix surnaturelle, qui ne va pas te faire fuir la réalité, mais qui va te faire l'affronter. Je crois ce matin qu'il y a un temps où Dieu déclare « c'est assez, c'est suffisant ». C'est assez, c'est suffisant. Il y a un temps de « c'est suffisant » qui arrive pour ta vie. Non, la douleur et la solitude ne va pas te terrasser parce que Jésus a comblé le fossé. Dieu est à tes côtés. Il t'invite à ne pas craindre. Il t'invite à ne pas promener des regards inquiets à gauche et à droite, mais à lui confier tes craintes et tes peurs. Il nous invite à veiller et à prier ensemble pour tenir ferme. Nous sommes animés de bonnes intentions, mais sans les forces surnaturelles de Dieu. Cela ne restera que des vœux sans lendemain. Mais je crois que Jésus est à nos côtés ce matin. Je crois qu'il est à côté ce matin et je crois que la coupe de colère c'est Jésus qui l'a bu. Jésus a bu la coupe de colère, mes amis, ce matin. Et nous pouvons venir à ses pieds. Nous pouvons ensemble ce matin nous désaltérer ensemble de la présence vivifiante de Christ. Je crois qu'il est là ce matin et nous attend, Église de l'Épi. Je voudrais vous inviter à vous lever ce matin. Qu'on puisse se lever ensemble et décider de dire « Seigneur, oui, je veux puiser en toi les forces nécessaires pour affronter la vie et non la subir. » Nous ne sommes pas appelés à subir la vie, les amis. Nous sommes appelés à la saisir parce que Dieu veut manifester sa grâce encore ce matin à nos côtés. Non, l'abandon ne va pas nous terrasser parce que nous ne sommes jamais seuls. Dans le temps où on chantait ce chant « Non, jamais tout seul ». Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais je ne serai seul. Je veux proclamer ce matin à des gens qui sont enfermés dans la solitude ce matin que tu n'es pas seul. Jésus est à tes côtés. Il a bu la coupe pour que jamais tu ne sois plus seul. Ce matin, il y a de l'espoir en Christ. Il y a de l'espoir dans la présence de Dieu. Je crois qu'il veut encore nous équiper. Je crois encore qu'il veut nous fortifier. Les gens qui sont enfermés dans la dépression ce matin, je crois que Dieu veut faire cette œuvre de libération. Il t'invite à ne pas t'isoler, mais au contraire à chercher aussi des amis, comme Jésus l'a fait, à partager la lourdeur de ton cœur à tes amis, mais surtout à ton Dieu, parce qu'il est celui qui veut communiquer ses forces vivifiantes ce matin. Je prie que tout esprit de mort ce matin, qui tient peut-être des gens captifs dans ce lieu, disparaisse et s'en aille au nom de Jésus. Je veux proclamer que la vie de Dieu est présente ce matin. Et que tout état d'esprit de prison spirituelle dans lequel l'ennemi a cherché à t'enfermer puisse sortir maintenant au nom de Jésus. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui nous communique sa vie et sa présence. Et je crois que ce matin, il veut encore le faire au milieu de nous. Que Seigneur, tu puisses souffler un vent d'encouragement dans ce lieu ce matin. On ne veut pas tomber dans la désespérance ce matin. Parce que tu es le Dieu qui suscite l'espoir encore dans ce lieu. Et on croit qu'après les ténèbres et la noirceur, il y a la lumière qui se lève, la lumière de Christ. Viens et souffle, Seigneur, ce matin, alors que nous continuons à te louer ensemble et à t'adorer. À toi la gloire, Jésus. Amen. Alléluia.